Au musée d'histoire qui est ouvert pour les 3 journées de l'archéologie, il y a une exposition sur un bateau cousu à côté de la maquette de ce qui a été reconstitué, le gyptis navigant, le gyptis qui vogue. Ce sont des bateaux cousus de l'Antiquité et pourtant ce ne sont pas les mêmes parce qu'il y a beaucoup de techniques autochtones à partir de 4 modèles différents.
Oui, c'est ça. Il y a les bateaux primitifs, dont la monoxyle, la pirogue est une des plus importantes, le radeau, le bateau en pot, etc. Et après, l'homme va développer des embarcations différentes avec en utilisant des techniques variées pour assembler toutes les pièces. Surtout parce qu'il a besoin de moyens de transport de plus en plus adaptés à des exigences nouvelles. Parce qu'un bateau, c'est justement une machine, mais c'est aussi une fonction. Donc on a besoin de bateaux pour la pêche, on a besoin de bateaux pour le transport, pour le commerce et pour la guerre, bien sûr. Donc on développe des types de bateaux différents. Une des techniques les plus anciennes, c'est la ligature. Donc on assemble toutes les pièces par le biais de liens qui peuvent être de différents matériaux, en cuir, en noix de coco, en coco. Aujourd'hui, on construit encore des bateaux cousus avec ça, ou du lin, comme les bateaux grecs archaïques de Jules Verne, voire d'autres matériaux disponibles.
À Zambratija, il y a eu une découverte, vous y participez, c'est une recherche à laquelle participent plusieurs pays parce que c'est compliqué, c'est cher.
Oui, alors bien sûr, alors là, dans le spécifique pour Zambratija, qui se trouve en Istrie, moi j'ai une mission du ministère des Affaires étrangères en Croatie depuis 2007. Et comme j'ai cette spécialité des bateaux, de l'étude des bateaux antiques, et cette spécialité manquait à l'époque en Croatie, donc ils m'ont tout de suite contacté, le Centre Camille Julien en particulier, pour développer des projets avec eux. Et donc moi j'ai travaillé sur plusieurs sites différents, et puis je suis partie travailler à Zambratija, où justement le musée archéologique de l'Istrie avait déjà eu connaissance de cette épave qui semblait déjà très intéressante pour sa datation très reculée parce qu'on avait déjà fait des C14, on avait déjà vu, et à ce moment-là il fallait bien sûr monter une équipe de spécialistes pour pouvoir retirer toutes les données de cette épave. Voilà.
C'est un bateau cousu préhistorique le plus ancien de Méditerranée, c'est ça, mais on ne sait pas exactement sa date.
C'est ça, c'est le plus ancien de Méditerranée parce qu'il est daté entre le 12e siècle avant et le 10e siècle avant. On n'a pas pu affiner la datation à cause de problèmes liés au C14, à la datation C14, parce qu'on est tombé sur un plateau du C14, c'est-à-dire un moment où on ne peut pas affiner vraiment la date, on reste sur une fourchette assez large. Mais quand même déjà, c'est intéressant parce que c'est sûr que c'est une datation très ancienne qui par ailleurs on voit très bien aussi dans la structure même du bateau, donc c'est quand même une construction déjà sophistiquée mais qui reste quand même avec des archaïsmes, avec des caractéristiques particulières.
Voilà. Lesquelles?
Ben, par exemple la planche, l'élément axial, planche quille, qui en effet dérive de la pirogue monoxyle, donc c'est une pièce sculptée et creusé qui sert d'élément axial. Et à partir de cette pièce qui est vraiment une sorte de pirogue d'origine, on a assemblé tous les autres planches du bordé pour faire ce bateau qui à l'origine devait être de à peu près 9 mètres de long et moins de 4 mètres de large et avoir une navigation assez restreinte, régionale. Voilà.
À côté, donc, il y a le vestige du bateau qui va devenir le modèle navigant gyptis. Est-ce que c'est important, justement, pour vous, chercheurs, archéologues navals et maritimes, de voir reconstituer ce genre de bateau?
Oui, bien sûr, parce que à travers les restitutions à l'échelle 1, On essaye d'étudier le geste que les anciens maîtres charpentiers mettaient en œuvre pour construire leur bateau. Donc il y a toute une recherche pour retrouver à partir des vestiges archéologiques, remonter dans le temps et restituer le geste. Donc c'est vraiment une étude d'histoire des techniques. De l'autre côté, le fait d'avoir une réplique navigante dans le cas de bateau nous permet tout un tas d'expérimentations aussi pour ce qui concerne la navigation. Donc tester le bateau sous voile avec différentes allures, etc., pour mieux asseoir nos hypothèses sur les espaces de navigation, sur l'utilisation du bateau, etc. Donc c'est extrêmement important dans notre discipline, qui est l'archéologie navale, de justement aborder ce côté expérimental. Et par ailleurs, c'est quelque chose qui est très connu, très utilisé pour toute discipline qui s'intéresse à l'histoire des techniques.
Alors, dernière question, justement, pour certaines archéologies maritimes et navales, où en est-on ? Est-ce qu'on a quand même la possibilité de travailler sur toute la Méditerranée, de préserver les épaves ? Parce que la mer, c'est à la fois le plus grand musée du monde, mais un lieu de pillage, de vol, de dispersion.
Oui, bien sûr. Donc, c'est une emprise titanesque. C'est pour ça que les États ils ont développé des services adaptés pour la défense, pour le recensement, pour l'étude du patrimoine, la recherche. Donc en France, on a le département des recherches d'archéologie sous-marine et subaquatique, et c'est un des États les plus forts de ce point de vue-là, justement parce qu'il a un service qui fonctionne, qui est à vocation nationale, etc. On a une convention UNESCO aussi sur la protection du patrimoine sous-marin, mais bien sûr, après, la situation n'est pas égale à l'échelle de tous les États du monde, mais voire aussi de la Méditerranée. Et puis, à côté de la préservation, de la conservation, on parle aujourd'hui de conservation in situ, parce que les techniques avancent, et puis pas toujours, on est capable de fouiller, par exemple, des épaves qui se trouvent à grande profondeur aujourd'hui. Donc, il faut les préserver pour les générations futures. Mais à côté de ça, donc, il faut développer aussi des équipes performantes de chercheurs, en concertation bien sûr, qui puissent après aller rechercher dans le détail sur des sites particulièrement importants. Zamrati fait partie de ces sites remarquables, de ces gisements remarquables, parce qu'ils vraiment témoignent d'une époque très ancienne, d'une technique très ancienne, d'une tradition particulière, etc. Donc là, on peut envisager après de pousser la recherche loin et donc de passer à des phases de récupération, de conservation, de muséalisation et peut-être de réplique, comme a été fait pour Jules Verne, pour les bateaux grecs archaïques. Donc au moment de la découverte, la décision a été faite de préserver ces deux épaves pour la postérité et pour pouvoir revenir aussi, parce que peut-être les recherches peuvent aussi s'améliorer à la suite, et les restituer au public, bien sûr dans un musée exceptionnel comme celui du musée d'histoire.